Cette saison, nous avons le plaisir de faire connaissance avec le monde fascinant de l'agent ailé à la chronique À vol d'oiseau. J'y ai invité des membres du COQ, c'est le Club des ornithologues de Québec, à nous partager leur savoir. Et ce matin, je reçois M. Gérard Cyr. M. Cyr, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien.
C'est la première fois que vous venez à notre micro. Depuis combien de temps êtes-vous ornithologue?
Ben, ornithologue, je m'intéresse aux oiseaux depuis environ 50 ans.
Alors, vous connaissez votre affaire, on est entre bonnes mains avec vous. Et voici donc le sujet de votre chronique d'aujourd'hui, c'est la migration. Ça, c'est fascinant, les oiseaux migrateurs. On les voit revenir au printemps, des fois revenir à l'automne. Il y en a qui viennent une seule fois dans l'année. Et la grande question qu'on se pose toujours, en tout cas moi, en les voyant, c'est « mais qu'est-ce qui leur dit que c'est le temps de venir ?»
Mais en fait, c'est inné. Les oiseaux, la majorité des oiseaux qui viennent nicher ici, ce sont des oiseaux migrateurs. Parce qu'ils viennent dans notre territoire pour élever leur nichée, avoir de la nourriture, avoir des habitats propices pour élever leur famille. Puis lorsque c'est terminé, il faut qu'ils passent à d'autres choses parce qu'ils n'auront plus assez de nourriture pour demeurer en place. Donc, il faut qu'ils fassent une route migratoire pour se rendre plus au sud, pour être capable de se nourrir.
C'est comme les nomades.
Oui, c'est comme des nomades.
Exactement.
Ils viennent ici. Dans le fond, ils viennent chercher un habitat qui leur permette de passer l'été ici. Puis c'est sûr que lorsque c'est le temps de le faire, ils sentent, c'est hormonal. Là, aussi, ce qu'on disait tantôt, il faut qu'ils soient capables de s'alimenter. Puis au moment où c'est le temps de migrer, il y a beaucoup de choses, il y a des points qui sont... faut qu'ils attendent des moments propices. Il faut qu'ils attendent que la température soit idéale pour ça, mettons qu'il y ait les vents propices, que la pression atmosphère s'en aille vers le bas, parce que dans le fond, parce que c'est quand même des grandes routes, c'est des longs vols qu'ils ont à faire. Puis il faut que les conditions soient idéales.
C'est comme les pilotes d'avion, hein?
Oui, absolument.
Il faut qu'ils surveillent le vent, la température et l'atmosphère. Pareil comme le pilote d'avion.
Exactement, mm-hmm. Exactement. Puis c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qu'il faut qu'ils regardent. Mais quand on regarde ça, l'oiseau, il s'en vient ici, puis il s'en vient nicher à un endroit précis. Puis lorsqu'il revient l'année d'après, il peut faire plusieurs milliers de kilomètres puis revenir nicher exactement à la même place. On se pose souvent la question, comment ils font pour s'orienter pour...
C'est pas Google Maps, certain.
C'est pas Google Maps, mais il y a d'autres choses. Parce que la majorité des espèces, ils sont capables de sentir le champ magnétique. C'est assez particulier parce que même on a déjà essayé de faire des tests, de changer fouillez-moi comment est-ce qu'ils ont fait ça, mais changer un peu le champ magnétique, comment ils détectent le champ magnétique, ils inversent ça, par exemple, en laboratoire, de 180 degrés, puis l'oiseau s'enligne exactement dans une autre direction. Puis ils l'ont bagué, ils s'en vont dans une telle direction, puis ils se rendent compte que lorsqu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, comme le soleil qui se lève, la direction du soleil, ils se ramènent puis ils s'en viennent dans la bonne direction. C'est comme si c'était juste temporaire. Il va toujours être capable de se replacer. On parle de la direction du soleil, mais on parle d'oiseaux qui migrent le jour, mais il y en a plusieurs, même beaucoup d'espèces migrent la nuit.
Des espèces qui migrent la nuit, là, vous m'étonnez beaucoup. Avez-vous des exemples?
Oui, mais beaucoup de passereaux, comme les parulines, ça va migrer la nuit, puis ça va migrer le soir. On va même être capable de les entendre le soir lorsqu'ils passent au vol, parce qu'il y a des cris de vol qu'on appelle. Puis, eux autres, souvent, ils vont se diriger ils ont une espèce de compost stellaire. Ils se fient aux étoiles, à la position des étoiles pour être capable de se déplacer. Puis, on dit, en fait, un exemple avec un groupe d'oiseaux dans un planétarium. Ils ont mis, dans le temps, juste au moment où c'est le temps de partir en migration, ils ont mis le ciel de ce moment-là, puis tous les oiseaux se dirigeaient dans le même coin du planétarium. Ils ont inversé ça, puis les oiseaux sont... changer de direction, sans aller complètement de l'autre côté.
C'est incroyable.
C'est absolument fascinant de voir ça.
Ouais, ils ont donc intégré toutes ces informations, comme les pilotes d'avion, comme les capitaines de bateaux qui ont dû apprendre à le faire après les oiseaux, finalement.
Ouais. Puis on parle d'une espèce de grive, comme la grive d'olive, on parle aussi, il intègre l'odorat. il va avoir, ils vont intégrer c'est assez spécial parce qu'il va savoir où se diriger par rapport à leur faculté de sentir.
Ils sentent les pollens, ils sentent les fleurs, tout ça.
Ils sentent ça, puis ils savent où se diriger, là. Mais ils intègrent toujours, comme on dit, le champ magnétique. C'est souvent, ça va être les oiseaux qui vont se diriger, parce que champ magnétique, ça peut être des migrateurs diurnes ou nocturnes.
Oui, oui.
Parce que
il est toujours là.
Il est toujours là. Lui.
Exactement. Et est-ce que la géographie, le lieu, les montagnes, les rivières, oui. ça les aide aussi, ça les guide?
Oui, absolument. On parle surtout au niveau, se diriger avec le relief de terrain, ce sont des migrateurs diurnes. Puis on parle surtout des rapaces, les oiseaux qui suivent les bords de plans d'eau, comme les fleuves, l'océan Atlantique, si on veut, tout le long des côtes. Là, ils vont suivre ça, puis il va y avoir un couloir migratoire qui va être relativement semblable à tous les endroits. Autrement dit, c'est sûr qu'on ne dit pas ils suivent pas un au-dessus de l'autre, mais sauf que globalement, ils suivent le golfe, si on veut, ou le long de la côte américaine, puis en montant vers le nord.
Alors, donc, on voit qu'il y a plusieurs façons de s'orienter, mais il y a parfois probablement des choses qui les empêchent, en fait, qui sont des embûches pour eux. Hein?
Oh, absolument. C'est parce que, dans le fond, on dit qu'ils attendent le moment idéal, le moment propice pour partir. La pression atmosphérique est bonne, la température est superbe. Ils vont partir en groupe. Ça peut être un gros groupe de migration qui part. Puis, il va arriver un orage. C'est arrivé, là, parce que souvent, ils n'ont qu'ils partent, puis ils traversent au-dessus de l'océan Atlantique, puis il va attraper un orage, là, puis il y a des populations qui sont décimées, là, ou presque par rapport à ça. Là,
En quelques heures.
En quelques heures, parce que... Puis même, il y a des exemples ou des gens qui étaient sur des bateaux, puis ont vu des oiseaux arriver sur le bateau en groupe, puis exténués, parce qu'ils étaient pris par une tempête, puis c'était quelque chose qui n'était pas prévu, parce que normalement, lorsqu'ils partent pour la migration, ils sont capables de faire des très longues distances. Mais ils peuvent avoir des choses de même qui sont moins prévues d'avance, si on veut, parce qu'ils sont quand même capables de sentir s'il y a des pressions différentes. Là, ils sont quand même de sentir, mais ils peuvent se faire prendre. Puis il y a plusieurs espèces d'oiseaux que ça peut être une des causes de démission, comme le martinet ramoneur ou quelques espèces d'oiseaux qu'on peut penser que ça peut être ce genre de choses-là qui est arrivé.
Alors, si vous nous dites qu'ils peuvent s'orienter avec les reliefs du terrain, avec ce qui arrive sur la Terre, si on met des structures humaines, je pense, je ne sais pas moi, aux éoliennes en Gaspésie, entre autres, ou bien à des plateformes pétrolifères sur les océans, est-ce que ça a une influence sur eux?
Oui, ça a une influence. Si on veut, c'est quand même pas le pire, mais si on parle de gros buildings avec des grandes vitres je sais pas combien d'étages, là, il y a eu des catastrophes comme ça, où est-ce que c'est que les oiseaux sont arrivés à pelleter
ils
ont foncé carrément dedans, parce que c'est comme des miroirs, ça reflète le ciel, ça reflète ce qu'il y a en arrière d'eux autres. Puis ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a aussi, il y a un exemple de où est-ce que c'est que les oiseaux ont été pris dans la brume. Puis ça, j'ai lu ça à un moment donné, où est-ce que c'est qu'il y avait des gros spots qui éclairaient, puis les oiseaux se sont tous dirigés vers le spot. Ils sont tous écrasés dans le coin du spot, parce
c'est erreur de navigation, c'était quelque chose.
Eux autres, ils étaient dans le néant, parce qu'ils ont été frappés par la brume, puis ils se sont dirigés vers le spot. Autrement dit, il y a certaines façons de faire qu'il faut regarder par rapport aux oiseaux migrateurs, parce qu'il y a du danger là, par rapport à ces choses-là. Mais si on parle d'autres choses, c'est sûr qu'il y a des choses plus naturelles. Les prédateurs, c'est normal, c'est naturel. Lorsque les oiseaux se déplacent, puis qu'ils arrivent en groupe, puis il va y avoir des prédateurs qui
vont venir. Les prédateurs savent qu'ils vont venir aussi.
Savent qu'ils s'en viennent aussi. Puis c'est un peu le contrôle des populations à Vienne. Ça, c'est normal, c'est naturel. Mais il y a aussi, si on pense surtout aux anatidés, il y a la chasse. Lorsque les oiseaux se déplacent...
Les anatidés, excusez-moi.
Les canards, les barnaches, les oies.
Oui.
Lorsqu'ils se déplacent en migration, ils sont entendus un peu partout. Ils sont entendus un peu partout. C'est sûr que ça peut affecter au niveau... C'est une espèce d'embûche pour eux autres.
Est-ce que, par exemple, pour ces espèces-là, je pense aux canards et aux oies, on ne pense pas qu'ils sont en voie d'extermination? Hein?
Non, eux autres, ils sont quand même en bonne position. Là. Mm-hmm. C'est des bonnes populations. Puis il y a même de la chasse qui a été ajoutée pour régulariser une espèce, on pense à l'oie des neiges.
Oui, les agriculteurs, je pense qu'ils l'aiment de moins en moins.
C'est ça. Il y a des façons de faire qu'on garde ça. C'est sûr que c'est des décisions qui ont été prises pour l'évolution de cette espèce-là. Mais si on regarde ça, c'est pas quelque chose. C'est quand même, on parle d'embûches, mais dans leur cas, dans leur famille, c'est pas quelque chose de grave, si on veut.
Alors, on a vu avec vous aujourd'hui, Gérard Cyr, quelle était la façon dont cette migration était déclenchée, comment est-ce qu'on pouvait s'orienter. Alors, ce sont des pilotes, ce sont des capitaines. Il y a aussi toutes ces embûches qui peuvent être difficiles, mais quand même... on peut admirer au plus haut point ces grandes migrations-là. C'est quelque chose de particulier à plusieurs espèces d'oiseaux. Est-ce que vous le savez environ combien est-ce qu'il y en a des migrateurs comme ça qui viennent chez nous?
Oh, il y a plusieurs centaines d'oiseaux migrateurs qui viennent ici pour nicher. Là. Exactement, le chiffre, je ne l'ai pas avec moi, mais plusieurs centaines. Oui, c'est ça, plusieurs centaines. Mais si on regarde au niveau de l'immigration, ce qui est étonnant, c'est de regarder les longueurs de migration. Un exemple, la Stène arctique qui va nicher jusque dans l'Arctique retourne dans l'Antarctique. Au moment où c'est notre hiver ici, il va retrouver l'été antarctique du côté de l'Antarctique, ce qui fait environ 20 000 kilomètres de migration. Là. Puis ça, c'est annuellement. Là. C'est annuellement, aller seulement. Donc, puis il y en a plusieurs. Un exemple, on pense à notre colibri à gorge rubis que les gens connaissent. Là. C'est tout petit, un de nos petits oiseaux qu'on a ici au Québec.
Oui.
Il part de notre province ici, puis s'en va jusqu'en Amérique centrale. Mais il traverse le golfe du Mexique 800 kilomètres sans arrêt. Là. On sait très bien que cet oiseau-là dépense beaucoup d'énergie à voler. Mais il est capable, à ce moment-là, il a emmagasiné assez d'énergie pour être capable de traverser le golfe du Mexique au vol direct. Là, parce que c'est sûr qu'il peut s'arrêter s'il rencontre des petites îles et ces choses-là. Mais c'est quand même étonnant de voir ces petits oiseaux être capables de faire des si longues distances.
Alors, ce que vous nous avez appris aujourd'hui, Gérard Cyr, ça nous permet de les admirer encore plus quand ils arrivent chez nous. On se retrouvera dans quelques semaines. Merci pour aujourd'hui.
Merci.